Rapide. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller.
Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres.
Sophie Durocher.
Elle s'appelle Kate. Elle a 42 ans et elle a appris il y a quelques semaines qu'elle avait un cancer. Quand ça arrive à n'importe quelle Kate, n'importe où à travers le monde, ben cette Kate, 42 ans, mère de 3 enfants, vit ça en privé. Elle s'assoit avec ses enfants, elle leur explique qu'elle a le cancer, elle leur explique que maman va devoir suivre des traitements, elle en parle avec son mari, elle en parle avec ses amis, elle en parle avec les gens. La garde rapprochée, là, vraiment, c'est quelque chose qu'on veut garder dans l'intimité, juste garder ça pour les gens autour de nous. Mais la Kate en question, elle, c'est pas monsieur et madame tout le monde, ça n'est pas madame tout le monde, c'est Kate Middleton. Elle est princesse de Galles. Elle est mariée au prince héritier. Son beau-père est roi d'Angleterre. Donc, quand cette Kate-là apprend qu'elle a le cancer, elle est obligée, elle n'a pas le choix, de faire une vidéo et de partager ça avec la planète entière. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai vu cette vidéo de Kate Middleton aujourd'hui qui nous annonce donc que, bon, on le savait, qu'elle s'était fait opérer au mois de janvier, une opération majeure à l'abdomen. Ce qu'on ne savait pas, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que les médecins ont trouvé quelque chose de problématique lors de cette opération et qu'une biopsie a révélé qu'il y avait présence de cancer et qu'elle était donc déjà dans un traitement de chimiothérapie bien entamé. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé parce que j'ai essayé de me mettre à la place de cette princesse qui est beaucoup plus jeune que moi et de me dire voilà un événement qu'on voudrait normalement vivre en privé, vivre dans l'intimité, vivre seule avec les gens qu'on aime, mais elle ne le peut pas. Tout le monde aujourd'hui parle de ça, tout le monde parle de ce qui se passe dans l'abdomen de Kate Middleton. Vous imaginez à quel point ça doit être difficile pour elle, en plus de devoir vivre cette satanée de saloperie de cancer, en plus, elle ne peut pas le vivre dans l'intimité. Donc, il y a quand même l'aspect où plein de gens, évidemment, lui témoignent de la sympathie, lui envoient de l'amour, lui envoient des mots, etc. Mais pensons-y, le prix à payer quand on est une personnalité publique de l'ampleur de Kate Middleton, c'est que même quelque chose d'aussi personnel, d'aussi privé que notre santé, on est obligé par la force des choses de le partager avec tous. Et ça, ça n'est pas facile. Donc, mouvement de sympathie pour Kate Middleton, dont on apprend aujourd'hui qu'à l'âge de 42 ans, elle est atteinte d'un cancer. On va en parler, bien sûr, plus tard dans l'émission. Mais je tenais à partager ça avec vous parce que ça doit être, ça doit rajouter à la douleur de vivre. Ça ne veut pas dire que c'est plus grave si c'est quelqu'un de connu, c'est pas ça que je dis. Du tout, du tout. Mais le fait de devoir comme ça s'étaler puis en parler publiquement, ça doit quand même pas être évident.
Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher.
C'est le gros scandale culturel de la semaine, la rapidité avec laquelle les passes pour le Festival d'été de Québec sont parties, sont vraiment envolées comme des petits ponchos, comme dirait l'autre, envolées donc comme des petits pains chauds. Et maintenant, si on veut s'en procurer, ben évidemment, faut passer par les revendeurs. Il y a une maman qui a été incapable de se procurer des laissez-passer pour la première fois en 16 ans. Elle avait témoigné dans les pages du Journal de Montréal, Journal de Québec. On avait envie de lui parler. Elle s'appelle Catherine-Anne Gingras. Madame Gingras, bonjour.
Salut.
Alors, pourquoi vous avez accepté d'abord de parler à nos collègues pour dénoncer la situation du Festival d'été de Québec?
Ben en fait, c'est que le journaliste lançait un appel à tous sur Facebook, puis je le suis, donc j'ai répondu parce que je pensais avoir peut-être une expérience qui pourrait être utile. Là.
Oui, ben tout à fait. Vous avez bien fait. Je suis très contente que vous l'ayez fait. Donc, la première fois en 16 ans que vous n'avez pas réussi à vous procurer des laissez-passer, c'est une tradition familiale pour vous, le Festival d'été de Québec.
Ben oui, j'ai toujours été résidente de Québec et puis j'y vais toutes les années avec mes enfants depuis qu'ils sont en âge d'y aller, là. Puis évidemment, ben comme je disais dans l'article, je planifie mes vacances en fonction de ça. J'attends que le festival annonce la programmation pour être certaine d'être là pour tous les soirs que je veux y aller avant de prendre des engagements. C'est sûr que je voulais, tu sais, nuancer ça parce que, tu sais, le festival d'été, je les adore et ils m'ont permis de vivre des moments inoubliables depuis des années, puis justement de créer des souvenirs en famille, puis le mm-hmm. fait que c'était abordable, ben ça oui. permet de, tu sais, d'amener mes enfants à voir toutes sortes de choses, puis de leur donner l'amour de la musique live, puis tu sais, c'est le fun qu'on puisse partager ça. Ce qui se passe aujourd'hui, ben tu sais, c'est que le temps change, la technologie évolue,
mais oui.
et puis les moyens sont différents.
Alors donc, vous vous êtes installé devant votre ordinateur pour essayer d'acheter des laissez-passer. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que vous nous semblez quelqu'un d'extrêmement bien organisé. Vous le faites de toute façon chaque année. Donc, la faute n'est évidemment pas de votre côté à vous. Racontez-nous comment ça s'est passé quand vous avez essayé d'acheter des laissez-passer pour vous et votre famille.
Ben en fait, j'ai essayé d'abord la prévente mardi. J'ai toujours réussi à acheter en prévente. En fait, j'ai jamais eu besoin de me rabattre sur la vente officielle. Et puis là, ça n'a pas fonctionné. J'étais là au bon moment, mais j'avais 3 appareils mardi. Puis là, ben en fait, ce qui arrive, c'est que c'est ce qui est juste. En fait, c'est c'est ce qui relève de la chance.
Oui.
Ce qui est un peu la loterie de la chance. T'sais, j'ai eu des mauvais numéros à toutes les fois. C'est ça. Fait que là, j'avais des chiffres beaucoup trop élevés pour être capable de me rendre à temps dans la file dans la vente pour le 20 000 billet qui était disponible mardi. Ce qui est arrivé mercredi, c'est un peu similaire en fait, mais c'est juste que je vous avoue que mardi, je me disais, il n'y a pas de problème, à 105 000, avec la même méthode, ça va sûrement fonctionner. Ça a toujours fonctionné avant.
Absolument.
Mais là, je me suis aperçue qu'on avait affaire à une autre, à quelque chose de vraiment différent cette année-là.
D'accord.
Je pense pas que le Festival d'été non plus pensait que ça serait aussi...
Non, je pense qu'ils ont été pris... Voilà, ils ont été pris au dépourvu eux-mêmes. Donc, on sait que les billets devaient être mis en vente à midi. Finalement, ils l'ont été à 11 heures. Vous étiez là à 11 heures.
Ouais, ben c'est un petit peu un coup de chance. Puis en même temps, le fait que j'attendais ça avec beaucoup d'anticipation. Mais je reconnais, par exemple, que si j'avais pas travaillé de la maison... si j'avais pas eu travaillé à mon ordinateur, parce que je travaille toujours devant un ordinateur, tu sais, je me mets à la place des gens qui avaient pris du temps
de
leur journée juste pour ça, j'aurais sûrement été plus fâchée, c'est ça.
C'est ça. Parce que
sans ça, j'aurais pas réussi de toute façon, tu sais, j'étais là à temps, c'est encore la même chose, c'est la loterie de la chance qui a fait que mes chiffres étaient pas bons encore.
Voilà. Mais le résultat, c'est que c'est frustrant. Vous n'en voulez pas au Festival d'été de Québec, bien sûr, mais en même temps, c'est une certaine frustration. Est-ce que après la parution de l'article, est-ce qu'il y a quelqu'un du Festival d'été de Québec qui a essayé de vous contacter pour essayer de vous consoler, vous offrir quelque chose ou...
Non, pas du tout. En fait, c'est plus des bons samaritains qui m'ont contacté pour m'offrir...
Oui?
De me vendre des passes au prix coûtant. Oui, j'ai eu quelques personnes qui m'ont contacté. J'ai même eu un homme d'affaires de Québec qui m'a offert ses passes or gentiment.
Wow.
Puis ouais, je dirais là que les gens sont vraiment gentils entre eux autres. Mais tu sais, là, si le festival d'été je suis pas fâchée. C'est certain que je m'attends à ce qu'on essaie de trouver des solutions pour l'année mais prochaine. Oui. Il y a des gens qui ont suggéré, devrait-on ouvrir des passes pour une quantité pour les résidents de la ville? Je pense que ça pourrait être une bonne idée. C'est certain que cette quantité-là peut pas être astronomique non plus parce que ça profite aux touristes, puis le touriste, ça profite à beaucoup de gens de la
et
ville.
Et voilà.
Ça, je comprends ça. T'sais. Mais
je pense que c'est peut-être plus, vous savez que le ministre Mathieu Lacombe donc a chargé quelqu'un qui s'appelle Karianne Bourassa de se pencher là-dessus parce qu'on avait déjà vécu quelque chose de semblable, le phénomène des revendeurs au moment de l'hommage à Carl Tremblay. Il y avait des gens qui avaient revendu des billets qui étaient pourtant des billets gratuits à 500 $ et puis il y a eu plein d'autres, il y a des recours aussi contre les sites de revente de billets. Donc c'est un problème de société qui se reflète évidemment au Festival d'été de Québec. Mais au-delà du phénomène de société, vous, c'est moi, je trouve ça très beau comme histoire parce que, bon, mon collègue du Journal de Québec lance un appel à tous. Vous, vous répondez. Il y a un article sur vous dans le journal. Puis là, il y a même moi, j'adore l'histoire de l'homme d'affaires qui vous écrit pour vous dire, ben, je te donne mes passes. Ah, est-ce que c'est quelqu'un de connu qui accepte qu'on donne son nom ou c'est quelqu'un qui fait ça dans l'anonymat et qui veut pas qu'on le nomme?
Il m'a dit qu'il voulait pas de, il faisait pas ça pour avoir de la publicité, mais je pourrais, je pense pas que ça le dérangerait que je le nomme, là. C'est le propriétaire de la brasserie Linox sur la Grande Allée, Philippe Desrosiers, qui m'a dit. Mais je le connaissais pas du tout, puis il a fait ça vraiment, je pense qu'il a fait ça vraiment de bon cœur et il m'a offert de me prêter des passes pour certains soirs. Cela dit, même ma mère aussi m'a offert de payer la moitié qui m'a la balance. C'est comme, je faisais pas ça pour faire pitié. Je suis consciente que c'est un peu un problème de riche, là. Puis de la même façon, tu sais, j'ai pas réussi à être sur la liste d'attente pour Taylor Swift à Toronto. Le problème est plus gros, là. Tu sais, Ticketmaster, Live Nation, c'est ce problème-là est partout, là.
Absolument.
Je suis pas dans la rue en train de me chercher un logement, là. Je veux dire,
j'apprécie beaucoup que vous relativisiez les choses. Vous avez tout à fait raison. Il y a des drames pas mal plus épouvantables que celui-là. Mais en même temps, votre histoire a touché beaucoup les gens parce que c'est une histoire de famille et il n'y a rien de plus important que de partager parfois ces moments-là. Vous l'avez dit, vous avez vécu des moments inoubliables au Festival d'été de Québec et c'est tout ce que vous souhaitiez. Mais moi, j'adore les histoires de bons samaritains. Donc, on salue Monsieur Desrosiers. Ouais. Vous avez dit le bar Linox à Québec. Je pense qu'il y a une couple de personnes qui vont peut-être aller prendre une bière là pour le remercier de sa générosité. Catherine-Anne Gingras, merci beaucoup d'avoir accepté de partager votre histoire, non seulement avec mes collègues du journal, mais avec nous ici à Cube. Vous êtes une mère de famille de Québec qui avait à cœur le bien-être de ses enfants, mais je pense que vous allez quand même pouvoir aller au Festival d'été cet été avec la générosité des gens de Québec. Merci beaucoup.
Merci.
Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure.
On va rejoindre tout de suite Jean-François Barry avec son commentaire du jour. Bonjour Jean-François.
Allô Sophie.
Comment ça va?
Ben ça va très bien toi.
Oui, ben c'est parce qu'on a changé comme 4 fois de sujet, fait que je suis un peu perdu. Je me souviens plus c'est quoi ton dernier.
Parfait, mon dernier c'est simple. En fait, on va parler de Jean-René Dufort qui hier,
oui, c'est vrai.
Il est allé d'une parodie de la vidéo de Guillaume le Métis Vierge.
Bon.
Puis, en fait, tu veux-tu qu'on la visionne tout de suite?
Parce qu'on on pourrait. On a un extrait. Alors, juste pour
comme
situer le contexte.
Ça mettra en contexte.
Oui, c'est ça. Mais non, mais je veux situer le contexte avant l'extrait. C'est que donc, pour ceux qui étaient cachés sous une roche ou sous une écorce d'arbre au cours des derniers jours, Guillaume le Métis Vierge a perdu son contrat pour la prochaine saison de Chanteurs masqués. Parce qu'il a fait une vidéo que certains ont considérée comme étant raciste. Et donc, depuis, il y a plusieurs personnes qui font des parodies de sa vidéo où il parlait à un arbre. Donc, on écoute la parodie qui, celle-là, est de Jean-René Dufort.
Avertissement. Tu sais, des fois dans la vie, là, t'as trop de travail. Puis quand t'as trop de travail, ben des fois... Tu perds des boulots. Puis des fois, il y a une expression dans la vie là, qui dit que t'en perds parce que t'es... T'es quoi déjà, là? Je m'en rappelle plus.
Bon, alors pour ceux qui nous écoutent, non pas avec des petites images, mais juste avec du tisson, il enlace un bouleau sur lequel ont été gravés les mots « maudit cave ». Personnellement, je trouve ça vraiment pas sympathique. Je pense qu'on est de la même équipe, toi et moi, là-dessus, Jean-François.
Ben oui, je trouve pas. Puis tu sais, je veux dire, moi j'en ai fait de la parodie là, rien qu'en masse. Là, j'ai eu des émissions hebdomadaires. Je suis de l'époque de Rock et Belles Oreilles. Puis là,
mais oui.
Je suis pas en train de capoter avec la vidéo.
Oh,
moi, mon point, c'est juste de dire, je pense que là, on a fait le tour.
Ouais.
Pour deux raisons. Je vais y aller tout d'abord, point de vue humoristique. Tu sais, je veux dire, on n'a pas cherché ben loin pour faire cette parodie-là. Là. Tu sais, maudit cave, c'est pas mal la première affaire qui leur est passée par la tête à graver sur cet arbre-là. Tu sais, il y a Damien Robitaille qui a fait une parodie plus tôt cette semaine. C'était déjà plus recherché parce qu'il avait fait des jeux de mots avec mélèze. Oh, il a créé un gros mélèze.
Jean-François, je t'arrête tout de suite. T'as pas lu ma chronique dans le Journal de Montréal cette semaine?
J'ai aussi lu ta chronique dans le Journal de Montréal.
Parce que c'était rempli de mots avec justement le jeu de mots avec mélèze aussi.
J'ai lu tout ça, puis c'est ça mon point. Ouais. C'est que maintenant, ça va tellement vite. Pardon?
C'est que ça suffit maintenant.
Ça,
là.
Sophie, là.
Toutes les blagues ont été faites. Là.
Mais pour vrai, tu sais, je me suis dit, hey, tu sais, avant, il y avait une émission ou deux émissions par semaine où est-ce qu'on riait un peu de l'actualité. Là, maintenant, c'est instantané. Le nombre d'humoristes qui en ont fait des blagues en se filmant la journée même, le lendemain, deux jours après.
En fin de semaine, il y en avait plein.
Il y en avait déjà plein. Fait que là, une semaine plus tard, de faire ça, j'ai fait... OK, on n'a pas réinventé et on n'a pas ce qu'on appelle en humour, François Havard à l'école de l'humour dans le temps nous appelait ça un topper. On n'a pas topé les blagues qui avaient déjà été faites. Tu comprends?
Je comprends. C'est-à-dire que si tu veux relancer... Matchs, là, ouais, c'est ça. C'est que si tu veux
relancer, trouve mieux.
Oui, c'est ça. Ben, c'est très bien dit. Et moi, je trouve ça très intéressant, ton point de vue, justement, puis que tu nous ramènes à François Havard puis l'école de l'humour, c'est que... il y a un art, tout le monde peut pas s'improviser, puis à un moment donné il y a comme des règles, puis on a atteint, je pense, le point de saturation. Moi,
puis
je vais te dire...
C'est que maintenant, en plus, Sophie, c'est que tout le monde peut en faire. Là, on parle des humoristes qui en ont fait, mais il y a plein de kidam, là, de monsieur, madame, tout le monde, qui en ont fait des jokes cette semaine.
Ah, puis ça, vous aimez pas ça, les humoristes, hein?
Non,
quand quelqu'un vole votre job, vous aimez
Mais... Pas du tout. Je fais juste dire qu'on en a vu 150,
ben non,
200, 250 blagues là-dessus cette semaine. Fait que, tu sais, si, je sais pas, Guillaume avait fait sa sortie mercredi, puis que là, ça joue hier, là, tu fais, ben oui, bang, tu sais, il a frappé dans le mille. Mais une semaine plus tard, tu sais, j'ai trouvé qu'on réinventait pas ben l'histoire. Fait que ça, c'est point de vue humour. Je te laisse aller avec ton point, tu t'en allais.
C'est-à-dire qu'en fait, moi, je plaide coupable parce que moi-même, j'ai participé donc avec cette chronique mercredi. Mais ça débouchait aussi sur autre chose, c'est-à-dire que j'avais une réflexion sur, je pense qu'il y a certaines personnes qui doivent se tenir loin des médias sociaux. Je pense qu'il y a des gens dans la communauté artistique qui sont tellement accros à ça que quand ça fait un petit moment qu'ils sont pas présents, ils ressentent le besoin de retourner sur les médias sociaux et leur entourage devrait leur dire, ben, je sais pas, ou mettre quelque chose sur leur cellulaire pour les empêcher de. Et quand tu t'appelles Guillaume Lemaitre-Vierge et que tu as déjà été pogné dans non pas une, mais deux et même quasiment trois controverses, il me semble que son entourage devrait comme lui ligoter les pouces, là, tu sais, je veux dire. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que Jean-René Dufort, je pense qu'on peut faire de l'humour sur Guillaume Lemaitre-Vierge, mais moi, je trouve que l'insulte n'est pas une solution.
Ben non, ben c'est ça. Ça, c'était le deuxième
traiter
point.
Traiter quelqu'un de maudit cave, je vois pas en quoi ça fait avancer. Et je vais te dire une chose, Jean-François. De quoi on parle le plus depuis le mois de septembre 2023 quand on parle d'éducation? On parle de l'intimidation. On parle de jeunes dans les cours d'école qui se font... Tu sais, il y a toute une gang qui se met autour d'eux puis qui l'intimident en disant « Toi, t'es un ci, puis toi, t'es un ça ». Je prends pas la défense de Guillaume Lemaitre-Vierge par rapport à ce qu'il a fait dans la vidéo. Mais à un moment donné, c'est correct de faire des blagues, mais quand tu te mets à insulter quelqu'un, moi, personnellement, c'est la limite que je trace.
Je suis entièrement d'accord avec toi. C'était mon deuxième point.
Donc, le premier point.
Non, okay. Mais le premier point, c'est de dire, tu sais, point de vue humour, on n'a pas apporté ça à un deuxième niveau.
Ouais.
Tu sais, si on avait, je sais pas, fait autre chose avec l'art, parce que, bon, oui, il n'y avait peut-être pas le choix d'en parler vu que c'est une revue, mais tu sais, apporte ça plus loin. Apporte ça, les jokes de boulot, là, on les avait toutes faites. Fait qu'apporte ça plus loin. L'autre affaire, ben, c'est ça. Traiter de quelqu'un de cave, je pense que là, on a fait le tour, puis je trouve que c'est un peu de l'acharnement. Il y a quand même un être humain derrière.
Avec des enfants puis une conjointe.
Ben, c'est probablement les mêmes personnes qui ont fait ça a-tu du bon sens s'en prendre à sa conjointe, s'en prendre à ses enfants.
Voilà.
Il y en a qui se sont pris à P. Wyler parce que c'est lui qui l'a dénoncé, à tout le monde en parle. T'sais, on a tout dit, ça n'a pas d'allure de s'acharner sur ces gens-là. Mais je pense que s'acharner sur Guillaume, ça vaut pas la. Je pense qu'il est à terre. Là. On peut-tu dire qu'il est à terre? Fait que de continuer d'en rajouter. Là, ça fait une semaine, à moins qu'on ait du nouveau ou un nouveau regard là-dessus ou quelque chose à apporter ou une réflexion, c'est correct. Mais là, je pense qu'on peut le lâcher parce que il doit pas bien filer. Puis, je veux dire, dans les 30 dernières années, on a tous côtoyé Guillaume qui était pas une mauvaise personne à recevoir en entrevue, Sophie, ou à côtoyer dans des coulisses. Là. Tout le monde le trouvait bien sympathique, bien gentil à venir jusqu'à il y a deux semaines. Je te dis pas qu'il avait pas fait des gaffes, là, mais moi, j'ai travaillé avec à la radio. C'était super fin, Guillaume, là, puis il m'a invité partout quand il y avait son simulateur de haute voltige, puis ces affaires-là, il était super fin. Fait que, tu sais, je veux dire, là, il a fait une gaffe. Il est à terre, ça donne rien de continuer à taper dessus. Il y a un être humain derrière. Puis effectivement, on n'arrête pas de dire faut lâcher les gens sur les médias sociaux, faut lâcher l'acharnement, faut lâcher l'intimidation. Puis là, parce qu'on s'entend tous pour dire que c'était pas fort son affaire, on dirait que ça nous donne le droit de se mettre toute la gang ensemble puis de taper dessus. Puis cela dit, comme toi, je suis pas en train de défendre ce qu'il a fait, loin de là.
Non, puis c'est important de le dire parce qu'il y a des ploucs qui nous écoutent. Il y en a un, là, écoute, en tout cas, je sais pas si je vais le nommer, un journaliste anglophone là, qui comprend rien. À chaque fois que j'ouvre la bouche, il comprend rien. Puis il m'a traité de raciste sur les médias sociaux en disant que j'avais pris la défense puis que j'avais minimisé Guillaume Le Métivierge. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? Il y a toujours, hein? Des ploucs,
ouais,
tu vas toujours en trouver.
Pas toujours l'entrevue.
Ben
c'est
voilà,
carré,
ils lisent le grand titre. Ils lisent le grand titre puis ils regardent pas nécessairement.
Mais moi, je le défends
les
pas.
Détails.
Je veux juste dire. Je crois qu'humainement, puis
oui,
point
mais
de vue
humour, c'est un principe de boxe. C'est un principe de boxe. Tu nous as parlé d'un principe d'humour tout à l'heure, mais un principe de boxe, c'est on tape pas sur un gars qui est à terre. À un moment donné, l'arbitre, il fait 1, 2, 3, puis là, on sort le gars qui est KO.
Il est à terre.
Un KO technique, je pense que c'est là qu'on en est rendu. Merci beaucoup, Jean-François Barry. Passe une excellente fin de semaine.
Toi aussi.
Sophie Durocher.
Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle.
La princesse de Galles, Kate Middleton, 42 ans, mère de 3 enfants, a annoncé aujourd'hui dans une vidéo extrêmement émouvante, extrêmement touchante, qu'elle était atteinte d'un cancer. On va en parler dans quelques instants avec quelqu'un de la Fondation québécoise du cancer, mais je voudrais d'abord qu'on écoute un petit extrait de cette vidéo qui, moi, personnellement, m'a bouleversée.
In January, I underwent major abdominal surgery in London, and at the time, it was thought that my condition was non-cancerous. The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present.
Alors, elle raconte qu'en janvier, elle a eu une opération et qu'à l'époque, les médecins ne pensaient pas qu'il y avait présence de cancer, mais que des tests qui ont été effectués par la suite ont révélé qu'il y avait un cancer. Vous vous souvenez sûrement de cette publicité qu'on a vue pendant des années où on voit quelqu'un qui reçoit un diagnostic de cancer et cette personne-là est comme... C'est comme une explosion, c'est comme une bombe qui explose et tout le monde est renversé par le diagnostic. J'avais envie de parler de tout ça avec Marco Dessel, qui est directeur général de la Fondation québécoise du cancer. Monsieur Dessel, bonjour.
Bonjour, Mme Durocher.
Quand quelqu'un d'extrêmement connu, là, on peut pas imaginer quelqu'un de plus connu que la belle-fille du roi d'Angleterre, quand quelqu'un d'extrêmement connu parle publiquement de son cancer, quel impact ça a, Monsieur Dessel?
Je trouve que c'est un impact extrêmement positif parce que vous savez, le cancer, malheureusement encore en 2024, c'est encore un peu tabou.
Donc, ah oui?
Malheureusement, oui, il y a encore des gens qui ont honte d'annoncer à leur entourage, ils ont peur de l'impact que ça va avoir autour d'eux. Il y a des communautés culturelles également qui vivent ça de façon plus difficile. Donc nous, chaque fois qu'il y a une personnalité publique qui annonce un cancer, ben pour nous, ça vient un peu briser l'effet tabou qu'il y a autour de ça. Donc, évidemment, c'est pas une bonne nouvelle pour la personne. On souhaite pas un cancer à personne, malheureusement. Mais en termes d'éveil populationnel, c'est quand même un geste qui est quand même positif et courageux, bien entendu.
Bien sûr. Le fait d'en parler publiquement, ça contribue donc à défaire ce tabou ou peut-être ce secret, cette notion-là de secret, où on dit ben là t'as le cancer mais parle-en pas parce que ça risque d'être mal perçu. Il y a différents éléments que j'aimerais qu'on examine ensemble. La princesse, donc Kate Middleton, explique qu'elle en a parlé à ses enfants et que c'était très important d'expliquer à Georges, Charlotte et Louis d'une façon qui était appropriée pour eux. Qu'est-ce que ça sonne comme expression pour vous, Monsieur Dessel, quand on dit qu'on l'explique à nos enfants de façon appropriée?
Comme vous mentionnez tout à l'heure, hein, je pense que vous avez fait l'analogie à la publicité, effectivement, là, c'est un choc. Donc, imaginez une jeune mère, 42 ans, qui annonce à trois jeunes enfants. Je pense qu'il faut choisir les bons mots et ça, certains, et nous, on accompagne justement
oui.
Au niveau de nos services à la Fondation québécoise du cancer. On a tout un service d'écoute qui est là pour accompagner. On fournit également aux gens, lorsque le besoin est là, des ouvrages. Parce que vous savez, annoncer un adulte, annoncer un enfant, c'est pas le même travail. Mm-hmm. Donc, à cet égard-là, c'est hyper important d'être bien préparé. Mais oui, il faut le faire hein, parce que les jeunes, ils vont être conscients des impacts là, des traitements de chimiothérapie, savoir des impacts sur le quotidien de la princesse en question et de leur mère. Donc, d'être bien préparé, c'est tout à fait légitime dans ce cas-là.
Même si on n'est pas princesse, on est évidemment extrêmement vulnérable comme être humain, puis on a une responsabilité évidemment envers ses propres enfants. Elle dit, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour les rassurer que je vais être OK, I'm going to be OK, parce que c'est sûr que pour des jeunes enfants, tout ça est très vague et leur conception de la maladie, de la mort sont des notions totalement abstraites. Donc, est-ce que aussi à la Fondation québécoise du cancer, vous accompagnez les gens dans peut-être même accompagner les enfants qui soit eux-mêmes reçoivent un diagnostic ou leurs parents en ont un? Est-ce que c'est prévu aussi?
Oui, on va être là beaucoup plus pour accompagner les proches. Là, donc, on va accompagner à ce moment-là, on accompagnerait le père. On le fait avec quelqu'un que je connais même très, très bien, là, qu'il devait annoncer. Un diagnostic de cancer et des traitements assez invasifs à son enfant. Et ben, je lui ai recommandé d'appeler notre ligne d'écoute, notre ligne info cancer, le fameux 1-800-363-0063. Il a parlé avec une documentaliste qui a fait parvenir des ouvrages. Il a parlé avec une infirmière également de la Fondation québécoise du cancer. Et finalement, le processus, c'est que nous sommes tous assez bien déroulés. Dans certains cas, si ça se déroule pas bien, on peut même offrir de l'aide psychologique. On a des psychologues à la Fondation québécoise du cancer. Donc, faut pas sous-estimer. Il y en a pour qui ça va bien se passer, puis il y en a d'autres qui vont réagir plus difficilement. Vous savez, le taux de survie, tout cancer confondu, là, tourne environ autour de 65 %. Là, aujourd'hui, j'ai pas réussi à bien découvrir, on voit que c'est encore un cancer qui ne nous signifie pas lequel de façon précise. On sait très bien dans la littérature scientifique et médicale là, qu'il y a des cancers qui ont des taux de survie 5 ans extraordinaires. Maintenant, la science, la médecine a fait des pas de géant et va continuer d'en faire. Il y a encore malheureusement des cancers que les taux de survie sont un peu plus difficiles. Mais là, dans l'article et dans son petit vidéo d'une minute trente...
Elle ne précise pas. Non, elle ne précise pas.
Ouais,
par contre, bon, on sait que c'est évidemment l'abdomen, puisque c'est là que les chirurgiens, que l'intervention chirurgicale a eu lieu. Ben, pour une femme, ça peut signifier, bien sûr, tout l'appareil digestif, mais pour une femme, ça peut également signifier, ben, cancer des ovaires, cancer de l'utérus, etc. Donc, il y a toute une panoplie de possibilités, mais en même temps, elle nous demande, de lui conserver une certaine intimité. Donc, je pense que pour l'instant, on ne le saura pas. Je voudrais vous faire écouter un autre extrait, un deuxième extrait de la vidéo de Kate Middleton, puis on va le commenter après. Je vais le traduire, puis on va le commenter après.
At this time, I'm also thinking of all those whose lives have been affected by cancer. For everyone facing this disease, in whatever form, please do not lose faith or hope. You are not alone.
Je trouve ça extrêmement touchant qu'elle ait pris la peine de dire ben je veux terminer en m'adressant à tous ceux qui sont touchés de près ou de loin par le cancer. Je veux vous dire qu'il y a de l'espoir. Enfin, faith and hope, c'est un petit peu la même chose en français, là, de l'espoir et de l'espoir, et que vous n'êtes pas seul. C'est important ça, hein, Monsieur Dessel. Vous n'êtes pas seul avec le cancer.
Effectivement, nous, à la Fondation, vous savez, dans notre ADN profonde, on est là pour toutes les personnes atteintes d'un cancer. Donc, il y en a pour qui, je le mentionnais tout à l'heure, ça se termine moins bien. Mais aujourd'hui, ça se termine très bien pour la très grande majorité des cas en soi. Et surtout, faut jamais vivre ça seul. Faut jamais rester isolé. Ça fait partie, là. C'est pour ça qu'on offre une panoplie de thérapies complémentaires, qu'on parle d'activités de yoga, de kinésiologie, de massothérapie, d'art-thérapie. Donc, il y en a pour tout le monde. Et c'est important. Faut en parler. Faut trouver avec qui. On veut en parler avec notre famille. On en parle avec notre famille. On veut pas en parler avec notre famille. Ben, il y a des ressources comme la Fondation québécoise et une multitude d'autres ressources au Québec. On est chanceux au Québec à cet égard-là. Il y a un beau filet d'organismes communautaires qui peuvent subvenir. Et ben, nous, on est une des portes d'entrée principales pour bien orienter les gens sur l'ensemble des ressources disponibles au niveau cancer partout au Québec.
Vous avez écouté au complet, bien sûr, la vidéo de Kate Middleton. Comment vous l'avez trouvée? Est-ce que son attitude, est-ce que ça ressemble à l'attitude que vous voyez chez des gens qui ont le cancer? Une espèce de profondeur, une sorte de maturité, puis en même temps, on sent aussi l'inquiétude quand même dans sa voix, là.
Tout à fait. Ça, je pense que c'est tout à fait humain. Mais moi, je dis toujours, il y a toujours une personne avant un diagnostic de cancer et il y a une nouvelle personne après un diagnostic de cancer. Et je vous dirais, c'est plutôt positif dans son ensemble parce que les gens prennent vraiment la notion de l'importance et de la beauté de la vie, hein, de chaque jour. Donc, moi, je trouve que c'est un geste courageux de prendre parole publiquement et de partager ce message d'espoir-là avec l'ensemble des personnes atteintes d'un cancer. On le sait, au cours de la vie, une personne sur deux sera touchée. Là. Donc, la statistique, là, on est deux, Madame Durocher, à parler cet après-midi.
C'est pour ça que je touche du bois. Même si c'est du faux bois sur ma table.
Heureusement, j'ai du vrai bois.
Juste en ce moment, enfin, je devrais pas dire les détails, mais juste en ce moment, dans mon entourage, il y a deux personnes qui font face au cancer et c'est pas pour rien. Ben, vous le savez, je participe à l'émission Sortez-moi d'ici, puis chacun d'entre nous choisit une cause et c'est votre fondation que j'ai choisie. Donc, à suivre si j'arrive à vous remettre 50 000 $ à la fin de la saison. Mais je voulais juste le souligner parce que chacun d'entre nous qui participe à cette émission-là a très, très, très à cœur la cause et la cause du cancer me touche particulièrement. Donc, merci beaucoup d'être venu nous parler, Monsieur Dessel, et j'apprécie beaucoup que vous ayez pris le temps de réfléchir justement à ce diagnostic vraiment qui est terrifiant pour Kate Middleton. Merci beaucoup, Monsieur Dessel.
Merci à vous.
Sophie Durocher.
Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher.
Si vous aimez suivre l'actualité culturelle, eh bien, cette fin de semaine, on a vraiment deux gros événements à surveiller. Je commence avec les prix Juno, qui sont un peu comme nos Grammy ici au Canada. C'est la grande fête de la musique. Ça se passe à Halifax cette année et c'est animé par la chanteuse canadienne Nelly Furtado, qui lance d'ailleurs un album au cours des prochains mois. Là, la date n'est pas encore annoncée. Par contre, il y avait une nouvelle chanson qui était sortie cet automne. Donc oui, ça met la table à tout ça. Elle va d'ailleurs offrir aussi une performance pendant la soirée. Mais je veux rappeler que c'est Charlotte Cardin qui est en tête des nominations avec 6 nominations, entre autres Artiste de l'année, Album de l'année, Chanson de l'année pour Conferi, Choix des fans aussi. Puis je rappelle qu'en 2022, pour son premier album, c'est elle qui avait été la reine de la soirée. Elle était repartie avec 4 prix. Donc peut-être qu'encore cette année, elle va réussir le même tour du chapeau. Ce sera à surveiller. Il y aura Alexandra Streliski aussi qui est en nomination dans deux catégories, dont album de l'année. Et on va la surveiller parce que pendant la soirée, elle prépare une performance pour rendre hommage à Carl Tremblay des Cowboys Fringants, parce qu'il y a un numéro, là, justement, un segment qui va être présenté pour honorer les disparus de 2023. Et c'est Alexandra Streliski qui a l'honneur de lui rendre hommage. Et on va surveiller aussi, évidemment, la catégorie Juno de l'album francophone de l'année. Ceux qui sont en nomination, c'est Fouki, Carquois, Salbarm, Soldia, les Cowboys Fringants avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Donc, une catégorie toujours qu'on garde à l'œil. Et oui, les Juno, c'est dimanche soir, mais en même temps, il y a aussi le Gala des Oliviers, 25e édition, qui est animée par Eve Côté et Cathy Gauthier. C'est Eve Côté, d'ailleurs, qui domine les nominations. Pierre-Luc Pomerleau, Alex Lévesque, Suzy Bouchard aussi se démarquent aisément. Et l'Olivier de l'année, donc dans cette catégorie-là, on surveille les humoristes Mathieu Dufour, Christine Morancy, Pierre-Yves Roy Desmarais, Arnaud Soli et Mike Ward. Je rappelle évidemment que la catégorie Olivier de l'année, c'est les fans, en fait, c'est le public qui doit aller voter pour remettre cet Olivier-là. Donc, il se passe beaucoup de choses en fin de semaine, niveau culturel. Et même chose pour ce qui est de TVA et LCN. On a préparé toute la semaine une programmation spéciale pour les funérailles de Brian Mulroney. Donc, vous pourrez voir tout ce qu'on vous a préparé, entre autres, ce soir. Il y a un documentaire qui retrace sa vie personnelle et sa vie professionnelle qui est diffusé. Et demain, samedi, ben, émission spéciale qui va vous permettre d'assister en direct aux funérailles de l'ancien premier ministre. C'est animé, entre autres, par Paul Larocque avec nos collègues Mario Dumont, Emmanuel Latraverse, aussi Julie Marcoux, Pierre-Olivier Zappa. Donc, si ça vous intéresse, vous savez qu'il y a une programmation spéciale qui est prévue. Si vous voulez nous rejoindre, 1-877-827-2346 ou par courriel au studio à commercial cube.radio.
Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre,
Sophie Durocher.
L'Office québécois de la langue française nous explique comment faire pour rédiger épicène pour des écrits plus inclusifs. Faut pas faire de pépène aux personnes non binaires. On va parler de ça avec Nick Payne, analyste politique, commentateur social.
Oh, j'aime mon nouveau titre.
Oui,
merci.
ton nouveau titre. Alors, je regarde ton t-shirt qui représente un tableau cubiste, mais je regarde de l'écriture épicène. Ça ressemble à un tableau de Picasso avec le nez à la place de l'oreille, puis l'oreille à la place de la bouche. C'est n'importe quoi.
Mais ça ressemble à ça. Mais c'est pas juste pour les personnes non binaires. Hein. C'est d'abord pour les femmes, en principe. Ben,
supposément. Alors, la raison pour laquelle
les personnes ayant un vagin.
Oui, les personnes ayant un vagin, parce que maintenant, tout le monde essaye de nous faire croire que c'est exactement ce que la juge Sheila Martin voulait faire. Hein. C'est juste un mot comme un autre.
Oui, non, c'est arrivé par hasard.
C'est arrivé par hasard. Alors, tout ça pour dire que le Conseil du statut de la femme a profité de la journée de la francophonie ou un truc comme ça pour partager donc un tableau que je vous montre à l'instant. Si vous le cherchez, vous pouvez le retrouver de toute façon sur ma page Facebook. Et c'est comment rédiger épicène. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi?
Alors, ça, c'est pas l'écriture inclusive, là, avec les points, les hachures, le saucissonnage intempestif des mots, mais pas constant en même temps. Non, ça, c'est la langue du celles et ceux, là.
Oui, oui.
Hein, épicène, c'est d'essayer d'écrire en français normal, tout en ayant constamment à l'esprit la trouille, hein, la peur de faire de la peine à quelqu'un, non pas par ton propos, mais par les mots que tu utilises.
En fait, l'idée, c'est d'être non-genré. Comme par exemple, au lieu de dire un élève, on dit chaque élève.
Oui, c'est ça.
Ouais, c'est drôle, en tout cas, ça ressemble. Ben,
ça marche pas parce que tu peux pas dire hier j'ai vu chaque élève si tu en as vu juste un, bon, par exemple.
Oui.
Mais ici, tu as des cadres experts et expertes. Alors, en plus du point de vue de la langue française, ça ne marche pas parce que c'est comme si chacun des cadres était à la fois expert et experte. Alors, on s'y perd un peu. Ça, c'est une forme d'appauvrissement. Ça ajoute un peu de confusion dans la langue. On nous dit, par exemple, un avocat ou une avocate d'expérience. Bref, Sophie, moi, j'en suis. Ceux qui disent que à travers la langue française et la façon dont elle existe aujourd'hui, dont l'histoire l'a forgée, on peut percevoir, par exemple, une forme de biais qui place l'homme, si tu veux, comme un peu l'être humain générique, tandis que la femme serait dans un statut différent, voire même inférieur. Je suis capable d'entendre des débats philosophiques autour de ça. Mais de là à, au quotidien, essayer de défaire la langue puis nous dire tout le temps comment il faut écrire puis nous donner des tapes sur les doigts quand c'est pas correct, on n'en sort pas et on est dans une forme, moi je pense, d'appauvrissement de la langue. Parce que qu'est-ce qui va arriver? Ben, avec si vraiment on devait se mettre rigoureusement à l'épicène, ben, y a certains mots qui sont pas interdits formellement, mais ils vont tomber en désuétude. Il y a des formules aussi qu'on n'emploiera plus. Il y a des phrases surtout très longues et très compliquées pour rien qui vont en émaner. C'est déjà le cas. Il y a qu'à entendre le discours des politiciens constamment.
Québécoises les technocrates. Et Québécois, puis les ci, puis
oui,
les
ça, puis là, on va nous dire que De Gaulle disait Française et Français, mais il disait ça une fois. Puis bon, on va reconnaître, on va laisser à ce grand homme d'État cette fantaisie. Mais globalement, dire ça tout le temps, à tous les jours, celles et ceux, puis c'est lourd. Et ça rend le français un peu insupportable. Et l'idéologie derrière, c'est que, bien sûr, hein, si on change la langue ou si on change notre façon de l'écrire...
On va changer les mentalités.
On va changer le monde.
Ben oui.
Ben écoute, les pays anglophones, le Royaume-Uni, les États-Unis d'Amérique, sont quand même pas reconnus comme étant des bastions de l'arrière-garde mondiale et qui sont donc anglophones, une langue dans laquelle ces questions-là se posent moins, là, voire même pas du tout. Est-ce que dans ces pays-là, les femmes sont mieux qu'au Québec, là, par exemple? Est-ce que du point de vue de leurs droits et de leur émancipation...
Vu que la langue est moins genrée, la société est-elle plus équilibrée?
On dirait pas.
Ben, on dirait pas parce qu'au Québec, hein, on a juste à regarder les chiffres, on le voit souvent. Là-dessus. Moi, je vais te dire, en tant que personne ayant un vagin, ce qui m'a dérangé, parce que
personne n'en ayant pas.
Et personne n'ayant pas de vagin.
Tu sais, j'ai donc jamais autant prononcé ce mot-là, Sophie, que depuis que je travaille avec
vagin,
toi.
Vagin. Je suis abonnée au compte LinkedIn du Conseil du statut de la personne, ayant un vagin. Et donc, ils profitaient de l'office de... ils ont envoyé un communiqué. Cette semaine, l'Office québécois de la langue française invite à célébrer la beauté de la langue française à l'occasion de la 28e Francofête. J'avais dit tout à l'heure, la journée de la francophonie, c'était pas ça. Nous tenons à vous partager une infographie produite par l'OQLF. Déjà, c'est une grosse faute de français parce qu'on partage pas quelqu'un, on partage quelque chose avec quelqu'un. Donc,
c'est ça. On ne peut pas partager à...
Voilà. Donc, on nous dit qu'il s'agit d'un outil, donc le fameux tableau épicène dont on parle. Il s'agit d'un outil fort intéressant afin de rédiger de manière plus inclusive, de représenter les femmes et les hommes de façon équilibrée et, écoute bien ça, et de désigner les personnes indépendamment de leur genre.
Ouais.
En quoi c'est le boulot, pour reprendre un mot que Guillaume Lemaitre-Vierge aime bien, en quoi c'est le boulot du Conseil du statut de la personne avec un vagin de... désigner les personnes indépendamment de leur genre. Ton but, le but du Conseil du statut de la personne avec un vagin, c'est de conseiller le gouvernement. C'est ça, le rôle du Conseil. De conseiller le gouvernement dans toutes les questions qui ont attrait aux personnes avec un vagin, parce que les personnes avec un vagin sont discriminées, opprimées, maltraitées ou moins bien traitées dans la société. Il y a un enjeu avec les personnes avec un vagin. Qu'est-ce que ça a à voir de désigner les personnes indépendamment de leur genre? En quoi c'est relié avec une notion de féminisme ou de défense des droits des personnes avec un vagin?
Question philosophique super intéressante, mais tu auras remarqué, Sophie, que toutes les organisations comme celle-là, qui sont du côté, disons, progressiste des choses, aujourd'hui, adhèrent au concept de l'intersectionnalité. Donc, c'est la même lutte pour tous. Hein? Alors, c'est pour ça que les féministes aujourd'hui, les néo-féministes, ne s'embarrassent plus de ce genre de proposition, de dire, ben voici, pour que tout le monde soit visible, ben ici, on va peut-être un peu enlever le mot femme. Et puis
on
là,
va un peu rogner. Mais le problème, c'est que ce n'est pas le conseil du statut de la diversité de genre. C'est le conseil du statut de la femme. Est-ce qu'on peut déjà... Il y a suffisamment de choses dont il faut se préoccuper, qui concernent, qui touchent directement les femmes, avant de se préoccuper de désigner les personnes indépendamment de leur genre.
Ah, mais s'il y avait seulement le conseil du statut des personnes avec un vagin qui faisait ce genre de truc, mais la promotion de l'écriture épicène, c'est partout aujourd'hui. Et moi, je pense que ça témoigne, je l'ai dit quand on parlait de l'écriture dite inclusive, d'une forme de c'est un manque d'amour de la langue. On ne fait pas ça à notre langue quand on l'aime. Moi, je suis certain que les femmes vont s'en sortir, même si je dis ceux qui ont fait ceci hier.
Voilà, on va comprendre que tu parles. Ouais. Tu sais, moi, si je dis ici, en tout cas, bref. Mais
moi, j'ai appris le français comme ça. Ceux, ça veut dire tout le monde. Ben, j'ai envie de parler des humains en général, des fois. Pas
ceux
seulement de chaque
ceux
identité.
Ceux qui m'aiment comprendront. Oui. On n'a pas besoin de dire ceux et celles.
Que celles
mais
et
c'est surtout qu'il y a
qui
des
me
phrases...
suivent, même me suivent. Ouais.
Oui, ceux qui m'aiment. Quel beau film, hein, d'ailleurs. Ben, ceux qui m'aiment prendront le train. Excuse-moi, c'était un bon titre de film. Et on nous dit, par exemple, une tournure inclusive, c'est au lieu de dire guide de l'utilisateur,
non.
Dire guide d'utilisation, c'est quoi le problème
ouais,
de dire le guide de l'utilisateur? Ben, est-ce qu'il y a une utilisatrice quelque part qui va être scandalisée et qui va se rouler en boule par terre parce qu'on
non,
a dit guide de l'utilisateur?
Non, on va te servir l'argument inverse, Sophie, tu le sais, ça doit arriver. Oui, mais toi, Sophie, qu'est-ce que ça change pour toi? Alors évidemment, si on nous dit ça à chaque phrase qu'on transforme, effectivement, on a l'air un peu nono. Ouais. Mais moi, sur le lot, je trouve qu'on appauvrit la langue en faisant ça.
Alors, tu dois céder ta place parce qu'il y a une personne avec un vagin qui parle de vagin parce qu'elle est spécialiste en sexologie qui s'en vient. Fait que laisse ta place, s'il te plaît.
Je laisse ma place à celles et ceux qui veulent me remplacer. Bye-bye.
Envoie dépêche, Nick Payne.
Sophie Durocher.
Un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
De la visite rare en studio, Anne-Marie Ménard, professionnelle en sexologie. Et Anne-Marie, je pense que c'était la semaine dernière ou celle d'avant, on s'était mis à parler très, très, très brièvement d'hormones bio-identiques. Puis tu avais dit, on y reviendra, Sophie.
Oui.
Alors, parlons-en.
Bon, d'abord, je vais parler de mon expérience personnelle aujourd'hui.
J'adore.
C'est vraiment un témoignage. J'ai commencé à aller vraiment pas très bien. Dans la dernière année, je pensais que j'étais en burn-out.
D'accord.
Et là, j'ai commencé à réduire ma charge de travail au travail, puis à essayer de chercher des réponses à mon mal-être. Je suis allée voir mon médecin de famille et je lui ai expliqué comment que je me sentais. Elle m'a dit « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Et je lui ai dit de retrouver le contrôle de mon corps. Écoutez, Sophie, je faisais de l'insomnie, des nuits complètes à ne pas dormir, à m'endormir à 6-7 heures le matin.
L'horreur.
Des SPM, parlez-moi-en pas. Écoutez, je devenais dépressive, agressive. Je perdais tous mes moyens. J'ai pris du poids. Je regardais une assiette. Puis avant de la manger, je prenais du poids. Je respirais de l'air. Je prenais du poids. Donc, c'était vraiment atroce, les symptômes que je ressentais. Ça m'a rendu non fonctionnelle. Et devant mon médecin, je lui ai dit, s'il vous plaît, aidez-moi à retrouver un peu de contrôle sur mon corps. Et elle m'a dit, parfait, je vais te prescrire des antidépresseurs et la pilule contraceptive. Je n'ai jamais, en 34 ans de vie, pris la pilule contraceptive. Je m'y oppose pas, là, c'est vraiment une opinion personnelle et non professionnelle, mais je sentais pas que, je veux dire...
C'était approprié. Je comprends.
J'ai écouté ma petite voix, je suis allée faire de l'acupuncture, de l'ostéopathie, et ça m'a menée à aller dans une clinique d'hormonothérapie.
D'accord.
J'ai fait des bilans, j'ai eu une requête pour faire un bilan sanguin très poussé pour voir mes hormones, et on s'est rendu compte que j'avais une dominance estrogénique. Ce qui veut dire que dans la deuxième partie de mon cycle menstruel, donc après l'ovulation, j'ai beaucoup trop d'estrogène par rapport à ma progestérone.
D'accord.
Et ça cause une panoplie de symptômes qui, je veux dire, je pensais que j'étais en dépression, que j'étais en burn-out. Et on m'a prescrit des hormones bio-identiques. Je prends de la progestérone du jour 12 au jour 28 de mon cycle et tous mes problèmes se sont évaporés.
Alors, je vais demander aux gens en régie de se joindre à moi. On va applaudir Anne-Marie. Donc, je déteste les mots comme miracle, transformation, etc. Mais on peut vraiment dire qu'il y a un avant et un après.
C'est la différence, elle est tout simplement, je veux dire, je m'attendais jamais à ça. Il y a des gens qui me disaient, ça doit être placebo, mais j'avais des douleurs au niveau de la vésicule biliaire qui ont disparu. Je veux dire, je m'attendais pas à ça.
Ben non.
Le sommeil est revenu. Mon énergie, avant, c'était le combat le matin avec mon bouton snooze. Là, je veux dire, je me réveille avant mon réveil matin. Mon énergie est stable tout au long de la journée. Je ne suis plus dépressive. Je faisais tellement d'anxiété. J'étais paralysée sur mon divan, incapable de bouger. L'anxiété a complètement disparu. Je ne m'attendais jamais à me sentir aussi bien. Et c'est déplorable parce que j'avais demandé à mon médecin de famille de tester mes hormones. Puis elle m'a vraiment regardée pour me dire, « Ben voyons, Anne-Marie, ils vont fluctuer tout au long de ton cycle menstruel. Je vais rien voir. »
OK. On a tous vu, évidemment, le documentaire de Véro, qu'on salue, l'auto-méno, et l'impact que ça a eu. Et combien de fois... Dans le reportage de l'excellent documentaire de Véro, elle dit justement à quel point on n'est pas prise au sérieux quand on dit qu'on a des trucs puis tout ça.
C'est exactement ça. Puis ça s'appelle de la misogynie médicale. Donc, on est sous-diagnostiqué chez les femmes. Puis pas juste au niveau de nos hormones.
Mais ton médecin, c'était un gars ou une fille?
Une femme. Puis moi, elle m'a vraiment regardée comme si j'étais niaiseuse de lui demander de tester mes hormones. Mais à la fin de la journée, on est régi par nos hormones. Nous sommes des boules d'hormones. Mais tant qu'on n'est pas dans un processus d'infertilité ou qu'on n'est pas en préménopause ou en ménopause, t'es beaucoup trop jeune, t'es pas en préménopause.
Oui, mais 34 ans, ça aurait pu être ça. Ça existe des gens qui, à 34 ans, sont en périménopause. De toute façon, moi, je prends pour acquis que quand tu vas voir ton médecin, il faut faire un éventail, il faut rien écarter, parce que les symptômes sont réels, donc il y a quelque chose derrière, donc, enfin bon, bref. Donc, alors, tu es maintenant une femme nouvelle, Anne-Marie. Je trouve ça très important, ton témoignage aujourd'hui, Anne-Marie. D'abord, pour encourager les médecins à avoir une meilleure écoute, à arrêter de dire aux femmes c'est dans ta tête, puis c'est pas ci, puis c'est pas ça, mais aussi de prendre conscience de l'importance justement de nos hormones. Tu dis on est régi par nos hormones. Nos hormones sont reines, là, vraiment.
Oui, puis elles existent pas juste quand on est en préménopause, en ménopause, ou quand on est dans un processus de fertilité. Elles sont là tout le temps. Ouais. Puis j'en parle aujourd'hui parce que j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux. Moi, je pensais que parler d'hormones, c'était plate. Ben, j'ai juste rectifié les choses. J'ai dit aux gens, je ne suis pas en burn-out. J'étais tout simplement en débalancement hormonal. Et je reçois, ça fait 4 ans que je suis sur les réseaux sociaux. J'ai jamais reçu en 4 ans autant de messages de détresse, de femmes en détresse, des femmes qui me font des messages vocaux qui pleurent.
T'es pas sérieuse?
Qui me disent, je ne peux pas croire, c'est exactement mon histoire. Des femmes qui ont des cycles de 60 jours, qui me disent, mon médecin dit, c'est normal, t'es hormonal. Mais là, on n'est plus dans les années 60 où on traite les femmes d'hystériques, là. Donc, je pense que si vous avez des symptômes, que vous entendez mon témoignage aujourd'hui, il suffit de vous faire confiance. Ce qui est déplorable, c'est qu'on doit aller au privé.
Pour faire la prise de sang avec l'analyse complète. Juste par curiosité, parce que le temps va nous manquer, ça t'a coûté combien?
Je vous dirais autour des 1000 $.
Ah oui, quand même.
Quand même. Je sais pas tout le monde qui a les moyens, mais je vous dirais que ça vaut vraiment la peine parce que ça change une vie complètement. Ça a révolutionné ma vie.
Absolument. Ben, très important témoignage, Anne-Marie, je te remercie, c'est extrêmement important. Je pense qu'on va y revenir aussi, parce que tu vas sûrement, après évidemment la chronique d'aujourd'hui, avoir encore d'autres témoignages. Je pense qu'on n'a pas fini d'explorer ce sujet-là. On vient juste d'ouvrir la boîte de Pandore et Pandormone.
Oui,
la comprends-tu? Merci beaucoup, Anne-Marie Ménard, donc professionnelle en sexologie, mais qui venait aujourd'hui témoigner à titre personnel de ce changement important, puis surtout nous sensibiliser à tout ça. Merci beaucoup. Je voudrais remercier Marianne Bessette et Maximile Sayeux à la recherche, Jean-Philippe Leroux à la mise en onde. Merci beaucoup à tous. Aimons la vie, les amis. 42 ans, diagnostic de cancer, ça peut arriver à n'importe qui tout le temps. Prenons soin les uns des autres. C'est comme ça que je voudrais terminer l'émission aujourd'hui. Au revoir. Kid.